public, la folie mathématique avec Étienne Klein et Olivier Rey. Avec Étienne Klein et Olivier Rey, nous allons parler aujourd'hui d'un roman extraordinaire, « Maniaque » de Benjamin Labattu. Ce livre est composé de trois parties. La première raconte la vie et la mort tragique du physicien Paul Ehrenfest. La deuxième, la plus longue, se consacre à la figure du mathématicien John von Neumann, né en Hongrie en 1903, est mort aux États-Unis en 1957. La troisième et haletante partie raconte une partie de Go qui, en 2016, a opposé l'intelligence artificielle AlphaGo, détenue par l'entreprise DeepMind, aujourd'hui propriété de Google, au champion du monde de la discipline, le coréen Lee Sedol. Ces histoires nous font toucher du doigt la folie et le génie mathématique qui ont profondément transformé nos existences. Étienne Klein et Olivier Rey ont sur moi l'insigne supériorité d'habiter la culture scientifique comme la culture des humanités. Je leur demanderai donc de m'instruire, de nous instruire, en évoquant, pour commencer, John von Neumann. Qui était-il et qu'avait-il de si fascinant, Étienne Klein?
Vous l'avez rappelé, John von Neumann est hongrois, il est né à Budapest en 1903, dans une famille plutôt aisée, et assez vite on remarque que son cerveau est une sorte de miracle profane. Il sait lire à 2 ans, il parle grec ancien avec son père à 6 ans, il est capable de faire des divisions mentalement de nombres de 8 chiffres. Un jour, il met le feu aux cheveux de son professeur d'escrime, et pour le punir, son père l'enferme dans la bibliothèque pendant plusieurs jours, et là, il apprend, enfin, il réinvente le calcul infinitésimal, et il lit les 30 tomes, une sorte d'encyclopédie d'histoire, et il peut réciter par cœur des phrases qu'il a lues. Et donc, c'est quelqu'un qui, assez vite, va se passionner pour la logique. Il pense que tout est logique, la pensée elle-même, la vie même. Il apprend à faire du vélo et il demande comment il a pu apprendre à faire du vélo sans en passer par le raisonnement, comme si le corps était capable de penser par lui-même. Et assez vite, il va s'intéresser, lors d'un séjour en Allemagne, à la physique quantique qui est en train de naître. Et comme il est soucieux de clarté mathématique, il essaie de voir comment on peut formaliser cette physique de la façon la plus précise possible. Et en 1932, il publie un livre qui va faire autorité, qui s'intitule « Les fondements mathématiques de la physique quantique », dans lequel il comprend que la physique quantique doit se dire avec des outils mathématiques comme des espaces de Hilbert, comme on dit, des opérations de mesure qui sont décrites par des opérateurs de mesure. Et donc c'est un livre très formel, mais qui pose les choses sur des fondements mathématiques qui sont très clairs. Et ça, ça va toujours le passionner. Et en 1930, il rencontre Kurt Gödel, et lui qui était soucieux de réaliser le programme de Hilbert, c'est-à-dire de pouvoir construire toutes les mathématiques à partir d'un formalisme minimal, clair, précis, unique. Gödel montre que c'est pas possible. Et Feynman voit là son rêve en quelque sorte brisé. Et il va partir aux États-Unis en 1937. Il est naturalisé américain, il s'appelle John.
Il part aux États-Unis, notamment à cause de la montée de l'antisémitisme.
Exactement. Et il va travailler activement au projet Manhattan, puis sur la bombe H. Il va d'ailleurs inspirer le personnage de Dr. Follamour dans le film de Kubrick. Il va s'intéresser à l'ordinateur, il va concevoir l'architecture de von Neumann, il va s'intéresser aux machines autoréplicantes. Bref, il va devenir quelqu'un de très puissant. Il va être un théoricien très zélé de la guerre froide. Einstein, qu'il fréquente à Princeton, dira de lui qu'il se transforme en arme mathématique.
Très bien. Alors d'ailleurs, en effet, il a participé, von Neumann, au projet Manhattan. Oui. Et il est dit dans Maniaque de Benjamin Labattu que c'est lui qui a persuadé les militaires qu'il ne fallait pas déclencher les bombes au niveau du sol, mais plus haut dans l'atmosphère, car ainsi l'onde de choc causerait des dégâts bien plus considérables. C'est même lui qui a calculé l'altitude optimale, 600 mètres, et c'est exactement la hauteur à laquelle se trouvaient les bombes quand elles ont explosé au-dessus des toits de ces pittoresques maisons en bois à Hiroshima et à Nagasaki.
Enfin, lui, il avait même proposé que la bombe, la première, soit lancée sur Kyoto, qui était la capitale culturelle du Japon, et Roosevelt s'y est opposé parce qu'il avait visité cette ville avant la guerre et ça le choquait qu'on puisse envisager une telle chose. Comme si d'autres choix étaient plus légitimes, mais enfin bon.
Oui. Et donc en effet, il se trouvait au carrefour de toutes les révolutions techniques et scientifiques du XXe siècle, la physique quantique, vous l'avez dit, la bombe atomique, l'informatique, la théorie de l'ADN, l'intelligence artificielle. Qu'en pensez-vous ?
Oui, juste une toute petite remarque à propos des débuts de l'informatique et de la bombe atomique. C'est qu'en fait, le premier usage qui a été fait des calculateurs, c'était pour mettre au point les premières bombes nucléaires. Et les premiers ordinateurs qui ont été physiquement construits, c'était à Los Alamos, l'endroit où on mettait au point la bombe atomique. Puisque les bombes atomiques n'ayant jamais explosé, la seule manière qu'on avait de anticiper ce qui allait se passer, c'était précisément de faire des calculs qui dépassaient les capacités humaines. Et c'est pour cela qu'on a fait appel au premier calculateur, qui certes, par rapport aux moyens dont on dispose aujourd'hui, peuvent nous sembler tout à fait bénins, mais bon, voilà quel était leur premier usage.
Est-ce que c'était Maniac, justement? Parce que le titre du livre, Maniac, pas est tout inspiré du sigle...
Pas tout à fait. Maniac, c'est l'ordinateur qui a ensuite été installé à l'Institute d'Advanced Study de Princeton, là où John von Neumann était professeur après la guerre.
Oui, d'ailleurs, Maniac, c'est le sigle de Mathematical Analyzer, Numerical Integrator and Computer.
Oui,
computer,
déjà. C'est devenu, surtout aujourd'hui, dans la recherche par projet, les chercheurs doivent d'abord élaborer des projets qu'ils soumettent ensuite à des instances pour avoir des financements. Et une activité importante de la recherche aujourd'hui consiste à trouver des acronymes accrocheurs pour qualifier ces projets. On peut dire que Maniac, est, de ce point de vue-là, préfigure une activité à part entière des chercheurs d'aujourd'hui.
En même temps, c'est déjà un lien qui s'établit entre le génie mathématique et la folie d'avoir choisi
oui,
ce terme de Maniac. Mais il est parti donc, il a quitté l'Europe pour les États-Unis, fuyant l'antisémitisme, et j'ai appris dans ce livre de Benjamin Labattu qu'il adorait les blagues juives. Il se nourrissait de blagues juives, et notamment celle-ci, tout à fait stupéfiante. Dans un petit village de Pologne, une rumeur terrifiante se répand. Une jeune chrétienne a été retrouvée assassinée. Craignant des représailles, la communauté juive se réunit à la synagogue pour discuter des mesures défensives à prendre en de telles circonstances. Alors qu'on demande à l'assemblée de cette réunion de crise de faire le silence, le président de la synagogue débarque en courant, à bout de souffle, tout excité. « Cher frère, s'écrie-t-il, cher frère, j'ai une nouvelle formidable à vous annoncer. La fille assassinée est juive. »
Hein, c'est horrible.
Horrible, horrible. Donc il avait quand même aussi un certain sens de l'humour horrible. Mais alors, Étienne Klein, avec lui et le type de rapport entre la science et la technique qu'il incarne, est-ce qu'on est encore dans le paradigme galiléen ? Est-ce que c'est la radicalisation de l'affirmation galiléenne selon laquelle l'univers est écrit en langue mathématique, ou est-ce qu'il va plus loin ou encore ailleurs? Étienne Klein.
Si vous permettez, je vais citer la phrase de Galilée complètement parce que elle contient un adverbe sur lequel je voudrais dire deux ou trois choses. Voilà ce qu'écrit exactement Galilée dans son livre L'Essayeur qu'il a publié en 1623. La philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot, sans lesquelles on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. » pour Galilée, les mathématiques, c'est la géométrie. Aujourd'hui, les mathématiques sont utilisées en physique avec bien d'autres formes. Mais cette déclaration de Galilée est en effet l'acte proto-fondateur de la physique moderne. C'est elle qui a permis qu'on découvre toutes sortes de choses grâce à des équations mathématiques qui prédisent l'existence d'entités physiques qu'on n'a encore jamais vues et que on finit par découvrir parce que les mathématiques obligent qu'elles existent. Pensez aux trous noirs, pensez aux ondes gravitationnelles, pensez aux bosons de Higgs, qui sont des entités physiques qui ont été prédites mathématiquement avant d'être détectées physiquement. Mais le mot intéressant, je trouve, dans cette phrase de Galilée, c'est le mot humainement. Humainement impossible. Que veut dire humainement ? Ou bien on considère que les mathématiques sont un langage précis, fabriqué par l'homme, plus précis que le langage ordinaire, et c'est dans ce langage précis que l'homme va interroger la nature. Ou bien on considère que les mathématiques sont le véritable langage de la nature que les humains doivent apprendre pour la comprendre. Et Galilée lui-même ne tranche pas la question. Mais selon qu'on choisit une option ou l'autre, on voit que ça change le statut de la mesure. Dans un cas, on force la nature à répondre selon nos critères. Dans l'autre cas, on adapte nos formes d'interrogation au langage propre de la nature.
Et quel est le choix que fait von Neumann à votre...
Robert von Neumann.
Est-ce qu'il continue ? Est-ce qu'il est
il répond pas à la question, mais un de ses amis d'enfance, qui s'appelle Eugène Wigner, qui était dans la même école que von Neumann à Budapest, qui est maintenant plus que lui, a publié en 1960 un article qui a été très discuté, où il dit que l'efficacité opératoire des mathématiques en physique, le fait qu'elles marchent, entre guillemets, aussi bien, relève de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est déraisonnable au sens, il n'y a pas d'explication de la chose. Et en effet, cette efficacité opératoire des mathématiques, elle est quand même stupéfiante. C'est quand même incroyable que ça marche si bien. Alors, ouais. D'où vient que ça marche? C'est une question que je laisse à Olivier Rey qui lève la main.
À propos de la figure de John von Neumann, une des choses... Bon, évidemment, c'était un homme d'une intelligence absolument extraordinaire. Mais, comme il y en a peu, mais enfin, il y en a quand même aussi quelques-uns, ce qui est tout à fait unique dans sa trajectoire... C'est le fait qu'il ait commencé par s'intéresser à des questions de mathématiques pures. Il était s'est inscrit dans l'école de David Hilbert, qui était le grand mathématicien allemand de son temps. Il cherchait à accomplir le programme dit de Hilbert. Et puis, à un moment donné, arrive Kurt Gödel, qui, en 1931, avec ses théorèmes, montre que le grand programme de Hilbert n'était pas réalisable, puisque Gödel, avec ses théorèmes d'incomplétude, montre, alors je simplifie beaucoup la formulation, mais enfin, dans toute théorie mathématique cohérente qui contient l'arithmétique, eh bien, il y a des propositions dites indécidables, c'est-à-dire dont on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies ou fausses à l'intérieur de la théorie, et... Deuxième théorème de Gödel, il montre que dans toute théorie mathématique cohérente qui contient l'arithmétique, on ne pourra jamais, par les moyens même de la théorie, prouver que cette théorie est valide. Et alors, pourquoi s'est-on autant intéressé à ces fondements axiomatiques des mathématiques à cette époque-là, fin 19e, début 20e siècle ? En fait, il se trouve que pendant très longtemps, on s'est pas du tout posé la question des fondements des mathématiques, parce que au fond, les mathématiques reposaient sur des idées claires et distinctes. Et puis, au fil des développements mathématiques au 19e siècle, apparaissent en mathématiques des objets qui s'éloignent de plus en plus de l'intuition commune, voire qui sont en opposition avec l'intuition. Et là, se pose la question, mais finalement, est-ce que cet édifice, sur quoi tient-il ? Sur quoi sont ses fondations, puisqu'on ne peut plus le raccorder à notre intuition ? Il cite à un moment donné Cantor, qui a fait une démonstration, et il dit « je le vois, mais je ne le crois pas ». C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à croire la vérité de ce qu'il a pourtant démontré. Et c'est là qu'on va se mettre à la recherche d'un fondement axiomatique, c'est-à-dire en fait un ensemble d'axiomes qui sont non démontrés, qu'on choisit comme point de départ des raisonnements, et puis on va essayer de reconstruire toutes les mathématiques à partir de ces axiomes. C'était un des grandes ambitions de Hilbert, et les théorèmes de Gödel montrent que bon,
c'est pas possible.
Ça va pas, on pourra jamais être sûr, en tout cas. Mais ce dont il faut aussi se rendre compte, c'est que l'immense majorité des mathématiciens ne sont absolument jamais, au cours de leur vie, préoccupés par la question des fondements des mathématiques. Ça, c'est un truc de logicien, de philosophe, mais pas du tout de mathématicien dans la pratique. Et on peut se poser la question, alors, qu'est-ce qui fait que les mathématiciens, à la limite, on trouverait, si vous voulez, une contradiction dans la théorie actuelle? Bah, on dirait, bah, on va bricoler les axiomes pour essayer de réparer les choses, mais parce que, de toute façon, l'édifice, lui, il est là et on y croit. Et qu'est-ce qui fonde, au fond, cette confiance qu'on peut avoir dans les mathématiques, alors même que Gödel a démontré que ça tenait un peu en l'air? Eh bien, c'est les sciences mathématiques de la nature et la technologie qu'on en tire. Ah oui, bien sûr. Et on ne comprend pas comment les mathématiques, justement, pourraient s'effondrer, alors même qu'elles ont remporté tellement de succès dans les sciences mathématiques de la nature et aujourd'hui dans la technologie. Et là, c'est là que ça donne une grande cohérence, finalement, à ce parcours de John Feynman, qui paraissait au départ, voilà, quelqu'un qui était dans le programme de Hilbert et qui termine à faire une bombe. Mais en fait, si vous voulez, on pourrait dire qu'il cherchait toujours le fondement des mathématiques, mais à partir du moment où on pouvait plus le trouver dans la logique, on allait le prouver dans les performances technologiques.
Dans les performances, oui. Mais alors justement, il veut aller très loin dans les performances, c'est-à-dire non seulement comprendre, non seulement opérer, mais même contrôler et faire. J'ai appris dans le livre de La Battue qu'il avait une obsession de la météorologie, qu'il voulait prévoir, mais qu'il voulait aussi contrôler. C'est-à-dire, il pensait que pour éviter certains ouragans, on aurait besoin de quantités d'énergie qui pourraient être fournies par des bombes nucléaires. Si notre connaissance des mécanismes météorologiques était suffisamment précise et que nous repérions un ouragan en train de se diriger vers les côtes américaines, nous pourrions utiliser une explosion thermonucléaire en haute altitude pour en dévier la trajectoire avant qu'il ne touche terre. Autre ambition de von Neumann, c'est-à-dire créer, et ça vous m'expliquerez ce que c'est, un système universel d'autoréplication. C'est-à-dire, il essayait d'envisager ce qui serait nécessaire pour que des entités non biologiques, qu'elles soient mécaniques ou numériques, commencent à se reproduire et connaissent un processus évolutif. Et il a consacré une grande part de son énergie mentale déclinante, parce qu'il a eu un cancer, il est mort jeune. Et d'ailleurs, lui aussi tragiquement, dans d'atroces souffrances. Donc il a consacré son énergie mentale déclinante à imaginer des moyens de déclencher une seconde genèse. Donc ça va très au-delà du programme galiléen. De quoi s'agit-il, Étienne Klein?
Galilée s'occupe de la nature en tant qu'elle est inerte. Feynman va plus loin, il pense que la vie n'a pas besoin d'être expliquée par des forces mystérieuses ou cachées, mais qu'elle relève d'un... une sorte de programme qui, une fois qu'on l'a bien identifié, permet de fabriquer des machines capables de s'autorépliquer. Il a publié un article sur les machines autorépliquantes, alors je crois que c'est en 1952. Et cette idée a été reprise dans les années 80 pour penser de nouvelles sortes de voyages spatiaux. On parle de sondes de Feynman. L'idée est d'une machine autorépliquante qui pourrait sauter d'exoplanète en exoplanète, tirer là les matières premières dont elle a besoin pour s'autorépliquer, elle-même habitée par des êtres capables de s'autorépliquer, de sorte que ce voyage pourrait durer beaucoup plus longtemps que l'espèce humaine. Moi, je pense que ça relève d'une sorte de petit délire, à moins que je manque d'imagination. Mais là, en effet, Feynman traverse une phase où il ressemble vraiment à Dr. Follamour.
Oui, là où on bascule un peu dans Philippe Catherine.
Voilà, où la bombe atomique devient la solution de tous nos problèmes qui peuvent assaillir l'humanité. Mais pour revenir, si vous le permettez, à Gödel, parce que le théorème de Gödel, il est toujours considéré comme très compliqué, très abstrait. Mais comme l'a dit Olivier Rey, il y a eu une période où on a considéré que les maths, ça consistait à empiler des idées claires et distinctes. Et si on le fait de façon rigoureuse, alors on obtient des résultats dont on peut dire qu'ils sont vrais. Mais je trouve que c'est bien de montrer, pour illustrer ce problème, le paradoxe de Russell, publié en 1903, où Russell, en empilant des idées simples et distinctes, aboutit à un résultat qui donne le vertige. Il dit que voilà, il y a deux sortes d'ensembles. Il y a des ensembles qu'on peut appeler normaux et des ensembles qu'on appelle non normaux. Les ensembles normaux sont des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes comme éléments. Par exemple, l'ensemble des conférenciers qui ont le trac est normal, puisque cet ensemble n'est pas un conférencier, et en plus il n'a pas le tract, donc il ne se contient pas lui-même comme élément, donc il est normal. Et puis un ensemble non normal, c'est un ensemble qui se contient lui-même comme élément. Par exemple, l'ensemble des idées abstraites est une idée abstraite, il se contient lui-même comme élément, donc il est non normal. Ensuite, on appelle grand N l'ensemble de tous les ensembles normaux. Et la question qu'il faut pas poser, c'est est-ce que N est normal ou est-ce que N est non normal? Si je dis que N est normal, ça veut dire qu'il fait partie de l'ensemble de tous les ensembles normaux, donc il est, par définition, non normal. Et si je dis qu'il est non normal, ça veut dire qu'il se contient lui-même comme élément, et comme N est l'ensemble des ensembles normaux, ça veut dire qu'il est normal. Conclusion, N est normal si et seulement si il est non normal.
Oh là là.
Et voilà. Et là, on est perdu.
C'est-à-dire que ça devient
une proposition indécidable, et c'est aux mathématiciens de décider s'ils considèrent que N est normal ou pas. Et donc,
c'est plutôt que les mathématiciens se débrouillent pour empêcher qu'on puisse parler d'un tel ensemble. Hein. Les axiomes, justement, ont été bricolés pour précisément limiter ce que l'on a le droit d'appeler ensemble. Et donc, à partir du moment où on n'a plus le droit d'appeler ensemble un ensemble qui est ainsi défini...
Mais tu es d'accord que c'est ça qui a provoqué en partie la crise des fondements.
Oui, oui. Mais pour revenir à ce que vous disiez, en fait, il y a une phrase de von Neumann qui est citée dans le livre et qui est importante, où il dit « Tous les processus qui sont stables, nous les prédirons. Tous les processus qui sont instables, nous les contrôlerons. » Parce que, en fait, quand même, si vous voulez, à partir de Poincaré, Poincaré avait attiré l'attention sur l'existence de systèmes dont le comportement était parfaitement, qu'on supposait parfaitement régi par certaines équations. Et pour autant, en fait, ces systèmes étaient dits chaotiques, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prédire à long terme leur évolution, par le fait qu'une infime différence dans les conditions initiales se traduisait à terme par des comportements complètement différents. Or, comme nous sommes dans un monde où nous ne pouvons jamais connaître les choses avec une infinie précision, cela veut dire que dans nos prévisions vis-à-vis de ces systèmes, eh bien, très vite, nous sommes pris de court. Mais ce que disait von Neumann, c'est que bon, pour les processus qui sont stables, eh bien là, on pourra faire les calculs et faire des prédictions à long terme. Et ce qu'il proposait pour les systèmes instables, où on ne peut pas faire de prédictions à long terme, mais pourquoi sont-ils, on ne peut pas faire de prédictions à long terme, c'est à cause de ces instabilités. Il dit, mais il suffit d'identifier à quel endroit sont ces instabilités et en agissant à ce moment-là, c'est nous qui pourrons choisir de faire bifurquer le système d'un côté ou de l'autre. Alors, par exemple, on sait très bien que pour la météo, c'est pour ça que les prévisions météo ne sont qu'à très court terme, parce que c'est un système chaotique. Mais il se dit, la météo, ça, on ne pourra jamais prédire à long terme. En revanche, lui, son ambition, c'était que peut-être qu'on ne pourra pas la prédire, mais on pourra la faire.
On la fait, voilà. C'est faire. C'est
bon,
faire.
Mais cela étant, c'est au prix de, effectivement,
oui, lui, et d'ailleurs,
il ne lésinait pas sur les moyens, puisqu'il était prêt à utiliser des bombes nucléaires pour faire basculer la météo d'un côté.
Et il n'a pas été suivi. Mais justement,
heureusement.
Ce que vous avez montré tous les deux, que c'est ce qui prouve la vérité des mathématiques, ce ne sont pas ses fondements, ce sont ses performances. Et là, je voudrais faire un petit détour par Heidegger, notamment ce texte, cette conférence très célèbre, Sérénité. Parce que il dit que, effectivement, l'homme moderne n'a jamais produit des plans aussi vastes, des études aussi variées, des recherches aussi passionnées qu'aujourd'hui. Donc, il y a la pensée calculante, disons, déploie des possibilités à proprement parler extraordinaires. Mais il dit, il y a deux modes de pensée, deux formes de pensée, la pensée qu'il calcule et la pensée qui médite. Et il s'interroge sur le fait de savoir si, en réalité, avec ce calcul toujours plus avancé, l'homme n'est pas en réalité en fuite devant la pensée méditante. Et il ajoute que dans tous les domaines de l'existence, l'homme va se trouver de plus en plus étroitement cerné par les forces des appareils techniques et des automates. Alors la question, c'est la prédiction d'Heidegger est-elle en train de se réaliser? Ou bien, notamment avec l'intelligence artificielle, et nous en viendrons au jeu de Go, n'y a-t-il pas déjà un empiètement de la pensée scientifique sur la pensée méditante, Étienne Klein.
Alors moi, je ne vais pas répondre de façon globale. Von Neumann, il pensait que la technologie fait partie de nous comme la toile fait partie de l'araignée. Il n'y a pas de remède au progrès, disait-il. C'est-à-dire que, voilà, on est embarqué dans ce mouvement, on ne pourra pas l'arrêter. Le fait que la pensée calculante ait détrôné la pensée calculante, comme le...
La pensée méditante,
méditante, pardon, comme le pensait Heidegger. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, si on prend le cas particulier de Von Neumann, sans doute, oui, lui, il était dans la pensée calculante. Mais
sauf aux approches de la mort.
Oui, la mort l'a fait changer d'avis, enfin en tout cas de pratique, on pourrait dire.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, il s'est quand même inquiété de.
Tout d'un coup, il a s'intéressé aux diverses spiritualités. Enfin, il se rendait compte que face à la mort, la pensée calculante ne lui était vraiment d'aucun secours.
Est-ce que la pensée méditante nous aide face à la mort? C'est une autre question.
Moi, il me semble que les pères fondateurs de la physique quantique, quand ils ont vu que cette nouvelle physique posait des questions d'interprétation très très sérieuses, ont pratiqué la pensée méditante à haute dose, pas tous, mais certains d'entre eux en tout cas. Il y a eu un grand débat entre Einstein et Bohr sur l'interprétation de la mécanique quantique. Paul Ehrenfest, le physicien Paul Ehrenfest, dont Labattu fait un portrait dans le livre, est celui qui a organisé ce débat au Conseil Solvay 1927, en servant d'intermédiaire entre Bohr et Einstein. Et je trouve qu'au contraire, les physiciens, en tout cas à cette époque-là, ont mis en scène une pensée méditante bien plus importante que ce qu'on imagine. Et ils disent même qu'ils ont dû le faire parce que les philosophies existantes n'étaient pas suffisantes pour répondre aux questions qui étaient nouvellement posées par les avancées de la physique.
Et Paul Ehrenfest, lui aussi, eut une mort tragique, racontée dans la première partie du livre.
Oui, était...
Ce physicien était très mélancolique.
Oui, alors qu'il est souriant sur toutes les photos qu'on... Il a été très pris en photo, je sais pas pourquoi. On a des dizaines de photos de Paul Ehrenfest et toujours il sourit. Alors qu'il était traversé d'angoisse, mélancolique. Et il s'est donné la mort après avoir tué son propre fils.
Son fils handicapé,
oui.
Il a pensé que celui-ci ne devrait pas, ne pourrait pas lui survivre.
Oui, et puis il y a d'autres raisons. Il y avait la montée du nazisme.
Aussi
le fait que justement la physique s'accompagnait de mathématiques de plus en plus abstraites. Et il pensait que la raison était en train de perdre pied. Il détestait Von Neumann pour cette raison, puisqu'il trouvait que les mathématiques qu'il produisait étaient trop monstrueuses.
Mais pour revenir juste un instant sur la question que vous aviez posée sur le paradigme galiléen, il faut quand même remarquer que depuis longtemps, il y a quelque chose qui résiste au paradigme galiléen, qui est le vivant. Les Grecs, la science de la nature, bon, pour eux, c'était la physis, et c'était donc la physique. Et si on prend la physique d'Aristote, au livre 2, ça commence exactement comme ça. Quels sont les objets de la physique? Les objets de la physique sont les animaux, les plantes et les quatre éléments, terre, air, eau et feu. Mais dans son énumération, il commence par les animaux et les plantes. Et pour Aristote, le vivant n'est pas à expliquer, puisque c'est un phénomène premier. D'une certaine manière, l'animé vient avant l'inanimé. L'inanimé, c'est à ce à quoi il manque là, mais c'est vraiment à partir du vivant que le monde est pensé. Chez Galilée, à partir du moment où on pense le monde comme écrit en langue mathématique, à ce moment-là, la physique va devenir la partie de la nature qu'on arrive à mathématiser. Mais en fait, vous voyez, normalement, la physique, c'était la science de la nature. Donc, toute la nature devrait rentrer dans la juridiction de la physique. Mais comme la physique est définie comme il faut que ce soit mathématique, eh bien, la physique va se rétrécir simplement à cette part du réel qu'on arrive à mathématiser. Et c'est pour ça qu'apparaît une nouvelle science qui est la biologie, dont on va se mettre à parler à partir du XVIIIe siècle, parce que avec la biologie, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive toujours pas.
Mais quand même.
Voilà, regardez.
Il veut y arriver. Bah, et l'ADN. Ça a quelque chose à voir avec les mathématiques. Et il paraît que...
Oui, mais on peut mathématiser des choses à l'intérieur du vivant. Mais le vivant, lui, ne se laisse pas mathématiser. Là, j'ai repris le hasard et la nécessité de Jacques Monod. Il dit ceci, la pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat d'objectivité de la nature. C'est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance vraie toute interprétation des phénomènes donnée en termes de cause finale, c'est-à-dire de projet. Il est impossible de s'en défaire, fût-ce provisoirement ou dans un domaine limité, sans sortir de celui de la science elle-même. Bon. Mais d'un autre côté, au paragraphe suivant, il dit « L'objectivité, cependant, oblige à reconnaître le caractère téléonomique des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils ont un projet, et à admettre que dans leur structure de performance, ils réalisent et poursuivent un projet. » Et vous voyez la situation de la biologie moderne. D'un côté, il n'y aurait pas de biologie s'il n'y avait pas de vivant. Mais d'un autre côté, ce qui nous fait reconnaître le vivant comme vivant, c'est que dans le vivant, il y a un projet. Mais à ce moment-là, si on tient compte du projet, c'est plus de la science. Et donc, en fait,
mais il y a aussi un
c'est pour ça que le vivant est une plaie suppurante au flanc de la science moderne. Et c'est pour cela que von Neumann, justement, cherche à se débarrasser du vivant en fabriquant lui-même, si vous voulez, des entités qui en prendront la place.
Hein. Oui, l'ADN, ça prouve aussi que le vivant a un programme et pas simplement un projet. Et là, c'est la science à nouveau qui affirme son pouvoir. Oui, mais
moi, je suis d'accord avec Olivier. La physique, elle est devenue puissante et efficace à partir du moment où elle a limité son projet et ses ambitions.
Ouais,
voilà. On s'occupe de la chute des corps, on s'occupe pas de la reproduction des êtres vivants. Et c'est ça qui permet d'être efficace. Tout le réel n'est sans doute pas mathématisable.
Mais la question
de savoir si la biologie bénéficie par rapport à la physique d'une extraterritorialité est une question ouverte.
Kant écrit dans sa troisième critique, Critique de la faculté de juger, qui selon moi est le meilleur livre de Kant, mais il écrit « Il n'y aura jamais de Newton du brin d'herbe
oui. ».
Alors une solution pour se débarrasser du problème, c'est de supprimer le vivant. Ça, c'est aussi une tentation de la science moderne, c'est qu'elle pourra régner partout à partir du moment où il n'y aura plus rien qui sera vivant.
Bon ben,
c'est une solution.
C'est une solution. J'espère que l'humanité ne va pas.
Elle est quand même assez engagée sur cette voie. Et von Neumann était assez activement engagé, ne serait-ce que par les bombes et tout ce qu'il prévoit.
Oui, la théorie MAD.
Alors, en lisant un texte de Benjamin Oliven, publié sur Substack, j'ai appris, texte consacré à Maniac, j'ai appris que cet automne, le prix Nobel de physique a récompensé deux pionniers de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton et John Joseph Hofield, et que le prix Nobel de chimie est allé à David Baker, Denis Assabis et John Jumper, les deux derniers travaillant chez Google, pour leur travail sur la prédiction informatique de structures de protéines. Vous voyez, et Denis Assabis est un des personnages principaux de la deuxième partie, nous y viendrons, car il était le programmateur d'AlphaGo. AlphaGo qui a battu le champion du monde sud-coréen par 4-1. Donc, l'intelligence artificielle est récompensée aujourd'hui. Elle a sa première manifestation, sa manifestation la plus spectaculaire. C'était effectivement cette victoire d'AlphaGo sur un très grand joueur de Go. Parce qu'on avait pensé jusque-là que le Go était un jeu trop complexe et labyrinthique pour qu'une approche computationnel puisse un jour dompter. Et c'est en plus le jeu le plus ancien et le plus étudié d'humanité, puisque il est pratiqué depuis 3 millénaires. Alors, que signifie cette victoire? Et est-ce que, à travers cette victoire, la pensée scientifique ne déborde pas le cadre de la pensée calculante, ou est-ce qu'on est toujours dans le calcul?
Avant de parler du Go, je voudrais parler des prix Nobel de physique.
Les deux ont été donnés
par John Hopfield, comme vous l'avez cité, et Geoffrey Hinton, pour leur découverte l'un des réseaux de neurones artificiels, l'autre pour ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et ça a provoqué un certain choc dans la communauté des physiciens théoriciens, notamment, parce qu'on donne le prix Nobel de physique à des gens qui n'ont pas fait de travaux de physique, mais des travaux d'ingénierie computationnelle, on pourrait dire ça comme ça. Et on entend beaucoup de gens dire que bientôt, on n'aura plus besoin de physiciens théoriciens, parce que si on récolte beaucoup de données, et si on les fait analyser par des algorithmes intelligents, alors ils diront mieux le réel que ne le font les théories physiques. Évidemment, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, puisque les théories physiques, elles agissent comme des treuils ontologiques, c'est-à-dire qu'elles permettent de prédire l'existence de choses qu'on n'a jamais vues. J'ai cité des exemples tout à l'heure, ondes gravitationnelles, trous noirs, bosons de Higgs, quarks, etc. Et c'est parce que ces choses sont prédites qu'on met en œuvre des expériences permettant de les détecter. Donc les théories complètent le réel, en tout cas l'augmentent. Et si on refait un peu d'histoire, on regarde par exemple comment Galilée a travaillé, ou Einstein, on voit qu'ils ont mis sur pied des théories ou découvert des lois physiques sans avoir de données. Quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse, on n'a pas de données. On ne sait pas faire le vide, on pense qu'il n'existe pas. Et quand on fait tomber des corps de masse différente dans l'atmosphère, on voit qu'ils tombent à des vitesses différentes. Voilà. Donc
les données ne suffisent pas.
Non seulement elles ne suffisent pas, mais elles nous trompent. Les données nous font croire que les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Donc comment est-ce qu'il a trouvé la vraie loi ? Par ce qu'on appelle une expérience de pensée, qui consiste à poser une question du type « qu'est-ce qui se passerait si ?» Or, l'IA ne fait pas ça. L'IA ne distingue pas le vrai du faux, voit des corrélations, et est incapable d'avoir ce geste théorique.
L'IA, oui.
Consistant à poser des questions contrefactuelles. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Qu'est-ce qui se passerait si mon corps tombait en chute libre? Ça, c'est des expériences de pensée faites par Einstein, qui ont été en partie à la genèse des théories de la relativité.
Donc, ça veut dire que l'IA n'est pas prête de mettre au chômage les physiciens, Étienne.
En tout cas, on a besoin de données, parce que justement, les théoriciens, ils ont tellement travaillé qu'aujourd'hui, quand on essaie d'aller dans ce qu'on appelle l'au-delà du modèle standard, il y a tellement de modèles de théorie qu'il faut des données pour les départager.
Ah oui, c'est ça.
Donc aujourd'hui, on pourrait dire qu'on manque de données parce qu'on a trop de théories.
Oui, voilà, malgré tout, je suis absolument d'accord que ce qui peut se révéler extrêmement efficace, c'est, on pourrait dire, l'intelligence artificielle dirigée, c'est-à-dire quand il y a de la théorie et que, par exemple, là, la performance pour prévoir la forme des protéines à partir des acides aminés. Bon, ben justement, on a une théorie chimique qui dit que les protéines se forment à partir des acides aminés. Et quand on a essayé de faire calculer les choses, d'ailleurs, on n'obtenait pas les bons résultats. Il a fallu beaucoup travailler pour finalement faire converger le processus. Et là, ça a donné un résultat. Donc l'intelligence artificielle dirigée, utilisée comme instrument, peut se révéler extrêmement performante. En revanche, se dire qu'on va plus avoir besoin de penser parce que on aura l'intelligence artificielle, ça c'est une absurdité.
Oui, mais alors quand même, revenons-en à cette troisième partie du livre d'Abattu, haletante, palpitante, ce match, cette partie qui a été suivie par beaucoup de monde, et d'ailleurs la fois où la seule partie qui est gagnée, l'Icédol, il y a eu des manifestations de joie dans les rues de Séoul, c'était une victoire de l'espèce humaine. Ça n'a pas duré, puisqu'il a perdu 4-1. Mais Denis Hassabis, justement, récompensé du prix Nobel, pour autre chose, vous l'aviez bien précisé, Olivier Rey, il dit, même si nous avons programmé cette machine, nous n'avons pas la moindre idée des coûts qu'elle peut inventer. Donc il se passe quelque chose là, de tout à fait stupéfiant.
C'est prévu même dans l'archi... Pourquoi cette machine se révèle aussi performante, c'est que il faut quand même. Moi, je ne suis pas spécialement impressionné par cette histoire, parce qu'on est quand même dans un jeu de Go avec des règles ultra simples. Donc, vous prenez une machine.
C'est le jeu le plus difficile de la Terre.
Mais
c'est
parce que. Mais c'est un jeu parce qu'il y a une combinatoire qui est absolument extraordinaire. Mais en revanche, vous avez des intersections, 19 sur 19, et vous avez des pions blancs et des pions noirs. Chacun en met un à son tour. Les règles sont simplissimes. Non. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez implanter ces règles simplissimes dans une machine. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que vous avez utilisé l'apprentissage des machines et vous les avez fait jouer l'une contre l'autre des milliards de fois. Et c'est en accumulant cette expérience de milliards de parties que les machines ont joué l'une contre l'autre que ont émergé des stratégies. Alors effectivement, pour un être humain, il serait hors de question de comprendre pourquoi à un moment donné la machine joue tel ou tel coup, parce qu'il faudrait pour cela dépouiller les milliards de parties qu'elle a jouées contre elle-même pour le comprendre. Et évidemment, il nous faudrait vivre nous-mêmes des milliards et des milliards d'années. Donc c'est hors de question. Mais si vous voulez, il n'y a pas un mystère énorme là-dedans.
Quand même les champions du monde.
Et par ailleurs, le jeu de Go, je suis désolé, mais pourquoi, en fait, justement, on peut faire de cet apprentissage-là? C'est parce qu'encore une fois, on fait jouer la machine l'une contre l'autre, et puis il y a un vainqueur, un perdant. C'est vraiment d'une simplicité absolument extraordinaire.
Non, mais ce que je trouve remarquable, c'est que les champions du monde de Go reconnaissent que la machine fait preuve d'une inventivité dans le déploiement du jeu que eux jugent absurde. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la machine fait n'importe quoi et en réalité, ce qu'elle fait lui permet de gagner.
Oui.
Donc on sort un peu des cadres de la pensée humaine pour explorer des voies que la pensée humaine ne considère pas comme... Voilà.
Et alors, d'ailleurs,
mais, ce qui était... Oui, mais je pense pas que ce, non, soit, je pense pas que ce soit de la pensée, justement.
Non, c'est pas de la pensée, c'est du calcul.
D'ailleurs, en fait, le lycée Dole dit « AlphaGo ne m'a pas battu, il m'a broyé ». Oui. Mais parce qu'il dit « se battre, on se bat contre quelqu'un ». Là, il se battait pas contre quelqu'un. Il était face à une force, un rouleau compresseur.
Oui, oui.
Et en fait, on n'est plus dans le jeu de Go, en réalité.
Oui, mais alors, on n'est plus dans le jeu de Go, mais quand même, Denis Hassabis, j'ai appris aussi dans le livre de la battue, et David Silver ont reçu, au nom de leur, équipe, un certificat de la Fédération de Go sud-coréenne, avec une mention précisant que ce certificat a été remis en reconnaissance des efforts sincères d'AlphaGo pour maîtriser les fondements taoïstes du Go et atteindre un niveau proche du territoire de la divinité. C'est quand même assez, assez stupéfiant, cette victoire. Alors là, maintenant, je voudrais vous demander de commenter une phrase de von Neumann. Vous soutenez qu'il y a une chose qu'une machine ne peut pas faire. Si vous me dites précisément ce qu'une machine ne peut pas faire, alors je pourrais construire une machine qui fera précisément cela. Est-ce qu'il est fou ou il est génial avec cette prédiction?
Moi, j'ai l'impression qu'il est fou pour les raisons que Olivier a développées tout à l'heure. Hein.
C'est-à-dire
toutes sortes de choses qui échappent à la logique calculatoire, à commencer par la vie. Et donc... Je pense que là-dessus, il se trompe. Et puis, il y a une chose qu'on n'a pas vraiment discutée encore aujourd'hui, mais si on prend l'exemple du jeu de Go, par exemple, on avait d'ailleurs vu des titres à l'époque qui disaient, finalement, le silicium bat le neurone. Voilà. Mais c'est faux. Si on regarde, si on compare les puissances, la puissance d'un cerveau humain, c'est 30 watts, qu'on soit champion du monde ou pas. La puissance qu'il a fallu déployer pour que ces machines soient éduquées, formées à partir des milliards de parties évoquées tout à l'heure par Olivier, c'est beaucoup plus. Autrement dit, l'IA a un coût énergétique colossal. Et il faut en plus ajouter que cette machine, AlphaGo, joue au Go, mais sait rien faire d'autre. Alors qu'un champion du monde d'échecs, il peut aussi faire ses courses et peut-être jouer au tennis.
Mais
oui, Olivier.
Ce que dit von Neumann peut être juste, mais il n'empêche que précisément, ça montre que la machine est toujours à la remorque, si vous voulez, parce que bon, si on lui donne une tâche précise à réaliser, bon, bah, on arrivera à construire la machine qui la réalise. Mais après, on peut toujours trouver de nouvelles tâches qu'elle ne savait pas encore faire. Je vous donne un tout petit exemple. C'est un mathématicien qui s'appelle Jean-François Colonna, qui travaille à l'École Polytechnique, et qui a posé des questions mathématiques à ChatGPT.
Ah,
voilà. Et alors,
autant qu'on en parle.
Et il lui avait posé la question, quel est le petit... Alors, Fermat, le grand mathématicien du XVIIe siècle, a laissé derrière lui un certain nombre de résultats, en particulier de théorèmes. Et parmi les résultats qu'il a laissés, il y a un petit théorème de Fermat et un grand théorème de Fermat. Petit théorème de Fermat qui avait été démontré par Fermat lui-même. Le grand théorème, il avait donné l'énoncé, mais on n'a pas de démonstration de lui. Et en réalité... Ça n'a été démontré qu'à la fin des années 1990 par Andrew Wiles. Mais Jean-François Colonna pose la question à ChatGPT, quel est le petit théorème de Fermat? Alors ChatGPT donne la bonne réponse. Demande quel est le grand théorème de Fermat. Pas la démonstration, hein, l'énoncé, juste l'énoncé.
D'accord.
Demande quel est le grand théorème de Fermat. ChatGPT, ChatGPT fait pas de démonstration, il peut simplement répéter ce qui existe. Donc en fait, il donne bien l'énoncé. Et après, Jean-François Colonna a cette idée lumineuse, il dit mais quel est le moyen théorème de Fermat? Et en fait, le moyen théorème de Fermat, ça n'existe pas. Mais sauf que ces machines-là, comme elles travaillent uniquement par des réseaux de probabilités, en fait, elles peuvent jamais répondre je ne sais pas ou ça n'existe pas. Et donc elles cherchent quelque chose qui va plus ou moins coller à la question posée, moyen théorème de Fermat. Et alors, selon les cas, d'ailleurs, elle ne répond pas toujours la même chose, mais alors voilà une des réponses qu'a obtenue Jean-François Colonna. Le théorème du nombre moyen de Fermat énonce ce qui suit. Si A et B sont deux nombres entiers consécutifs, alors il existe au moins un nombre premier P, tel que A strictement inférieur à P, strictement inférieur à B, c'est-à-dire qu'entre deux nombres premiers consécutifs, entre N et N plus 1, on peut toujours caser un nombre premier. Ça n'a aucun sens. Et là, on se rend compte que cette ChatGPT ne comprend pas ce que c'est qu'un nombre. Vous voyez, on peut être émerveillé parce que ChatGPT répond ceci, répond cela, mais en fait, c'est de la probe.
Donc elle est bête.
Complètement. Mais, elle ne comprend pas.
Mais rien.
Elle ne comprend rien.
Alors, pas seulement, ce qu'un nom.
Aux gens à qui je dis ça, ils disent oui, mais on va réparer ça. C'est vrai. Von Neumann dit
On va
faire une machine qui va pas se tromper à cet endroit-là, mais elle se trompera à un autre, puisque de toute façon, si vous voulez, elle ne comprend rien.
Mais c'est intéressant.
Elle apprend, mais elle ne comprend pas.
Parlons des effets dans nos vies de toutes ces extraordinaires, miraculeuses inventions. On sait déjà ce qu'il en est de l'ordinateur, du portable, mais l'intelligence artificielle. On me dit, peut-être ai-je tort, qu'elle fait des dissertations maintenant, l'intelligence artificielle, à la place des gens. Et moi, si un jour j'ai un sujet de lit, je lui dis j'ai ce sujet-là, mais je suis en plein déclin cognitif, donc j'aimerais, ChatGPT, que tu me donnes les principales directions, voire que tu l'écrives. Est-ce qu'elle y arrivera?
Elle y arrivera, mais si vous voulez, comme à partir du moment où ChatGPT travaille à partir d'un corpus avec lequel elle a fait son apprentissage, elle vous ressortira, si vous voulez, des par probabilité. Alors ça peut donner de temps en temps des connexions assez inattendues et des choses assez surprenantes, mais il n'empêche que, si vous voulez, elle travaille forcément à partir du corpus qui lui a été donné. Et d'ailleurs, il se peut très bien. Et c'est quelque chose qu'on commence à voir. C'est-à-dire que ChatGPT, au départ, a été entraîné à partir d'un grand nombre de textes qui lui avaient été soumis. Mais depuis, elle est soumise également à toutes les conversations qu'elle a avec les gens. Et en fait, avec le temps, elle s'abêtit.
Elle se pollue elle-même.
Etienne Klein.
Ben, disons que moi, je peux plus donner à mes étudiants de devoirs à la maison. Hein.
C'est pas vrai.
Ben oui, parce que si je demande une dissertation, je sais qu'ils vont utiliser ChatGPT ou un autre. Et donc, je les surveille.
Je voudrais
en
juste.
Les privant de leur téléphone portable. Mais il y a un monsieur qui s'appelait Moravec qui a écrit, dans les années 90, le paradoxe de Moravec, selon lequel, plus une chose est facile à exécuter par un humain, plus elle est difficile à réaliser pour une machine. Et je sais pas si c'est vrai, ça. Parce que, par exemple, comme exemple, il donnait la reconnaissance des visages. En disant ça, un humain peut le faire très facilement. Si je vous vois une fois, je vous reconnais le lendemain. Une machine pourra jamais le faire. C'est faux, les machines le font aujourd'hui.
Oui, mais c'est difficile pour Neumann.
C'est beaucoup d'énergie.
C'est difficile pour elle. Ouais, justement.
Et par exemple, coiffeur, ben pour l'instant, il n'y a pas de machine qui coiffe.
Mais je voulais juste donner quelques phrases de Aragon qui figurent dans son roman Blanche ou l'oubli, qui sont extraordinaires, je trouve, pour notre situation actuelle. Il dit « On n'a plus besoin de se souvenir du moment que les machines le font pour nous. » Bon, ça, il fait référence aux mémoires informatiques. Hein. Tout est dans les mémoires informatiques, mais plus grand-chose dans nos têtes. « Comme ces ascenseurs où 10 voyageurs appuient au hasard des boutons pour commander désordonnément l'arrêt des tâches divers et l'intelligence construite rétablit l'ordre des mouvements à exécuter. » Voilà, on est tout début de l'intelligence artificielle avec l'ascenseur.
Oui.
« Il ne se trompe jamais. Ici, l'erreur est impensable et donc repos nous est donné de cette complication du souvenir. Ici, le progrès réside moins dans l'habileté du robot que dans la démission de celui qui s'en sert. J'ai enfin acquis le droit à l'oubli. » Mais ce progrès qui me prive d'une fonction, peu à peu m'amène à en perdre l'organe. Plus l'ingéniosité de l'homme sera grande, plus l'homme sera démuni des outils psychologiques de l'ingéniosité. Ces esclaves de fer et de fil atteindront une perfection que l'homme de chair n'a jamais connue, tandis que celui-ci, progressivement, retournera vers l'amibe. Et c'est ça le grand mouvement, si vous voulez. C'est pas tellement la menace que fait peser l'intelligence artificielle, ce serait pas que, si vous voulez, elle arrive à faire mieux que nous tout ce que nous faisons. C'est que, à force de baigner dans un monde d'intelligence artificielle, précisément, on lui délègue de plus en plus de tâches et, n'accomplissant plus ces tâches, en fait, on devient complètement idiot. Un étudiant qui va faire sa dissertation par ChatGPT, peut-être que ChatGPT fera une dissertation qui sera largement du niveau de ce que lui aurait produit. Et ce qu'il y a, c'est que dans le produit qui y était intéressant, enfin, ce qui était intéressant dans l'exercice, c'était pas seulement le produit final, c'était le chemin de pensée que l'étudiant avait dû suivre pour produire cette dissertation. Et là, il fait rien du tout.
Et si on n'emprunte plus ce chemin, où va-t-on? Alors justement, je reviens une seconde au maniaque. Benjamin Leven écrit ceci. Alors que les histoires que raconte la battue peuvent sembler terrifiantes, le lecteur reste fasciné et même exalté. Ce qui nous est raconté, et non pas la mort de l'humanité, mais bien plutôt l'ébullition créatrice de l'intelligence, le moment où l'homme peut faire émerger Dieu. Est-ce qu'on n'est pas à la fois plutôt terrifié et exalté par tout ce qui se passe aujourd'hui? Pour finir.
Moi, j'aime bien citer François Julien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Raviver de l'esprit », dans lequel il compare la situation d'aujourd'hui à celle qu'ont connue les peintres, les artistes peintres au XIXe siècle, quand on a inventé la photographie. Donc, ils sont soumis à une concurrence technique, les peintres qui font des portraits ou des paysages, et ils inventent l'abstraction. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va faire la même chose avec la concurrence technique de l'IA? Est-ce que ça va provoquer un essor de l'esprit, ou est-ce qu'elle va démuscler nos cerveaux par le fait que nous allons de plus en plus déléguer des tâches, même des décisions, à des machines qui ne seront même pas expliquées comment elles arrivent à formuler tel ou tel avis?
Oui, mais enfin, on peut dire aussi que, en se tournant vers l'abstraction, la peinture a pu perdre quelque chose.
Ça, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet.
Oui, ce qui est
Olivier
aussi,
Ray, pour
ce
finir.
Ce qui est aussi très frappant dans toutes ces prévisions, c'est qu'elles ne tiennent absolument pas compte de l'état de la Terre aujourd'hui. Et on ne sait absolument pas si, justement, la Terre sera en état de fournir ce qu'on lui demande pour ses développements. J'ai retrouvé un texte de Pierre Fournier, écrit en 1972, dans la gueule ouverte. Et il écrivait « L'homme est en train, à force d'exploitation technologique incontrôlée, de rendre la Terre inhabitable, non seulement pour lui, mais pour toutes les formes de vie supérieures qui s'étaient jusqu'alors accommodées de sa présence. Le paradis concentrationnaire qui s'esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour, parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l'œuf. La seule vraie question qui se pose n'est pas de savoir s'il sera supportable une fois né, mais si, oui ou non, son avortement provoquera notre mort. »
Bon, bah écoutez, c'est une très belle et optimiste conclusion. Merci beaucoup Étienne Klein-Olivier Ray. Je rappelle que le roman de Benjamin Labattu, qui est né à Rotterdam, qui vit à Santiago du Chili, et qui a écrit ce livre en anglais, Maniac, est publié aux éditions Grasset, dans une traduction splendide de David Fockenberg. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Alexandre James. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Questions juives et problèmes arabes ». Mes invités seront Paul Audy et Henri Laurence. Dans un instant, « Concordance des temps » de Jean-Noël Jeannonet.